Dieu te bénisse. Alors, on va prier et après cela, on va aller avec la lecture de ce matin et continuer notre enseignement pour aujourd'hui. Donc, je mets ça sur off. Je baisse ça pour être sûr. D'accord. Alors, prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes afin de plonger nos regards dans ta parole. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur, comme un serviteur, une servante qui a besoin de directives et d'instructions de son bon maître. Parle-nous ce matin, Seigneur, enseigne-nous. Ouvre notre entendement à ta parole. Ouvre notre entendement à ta pensée, ô Dieu. Notre désir, Seigneur, n'est autre que d'être pleinement approuvé par toi, pleinement trouvé acceptable à ton regard. Pleinement trouvé admissible à ta grâce et à ta bénédiction. Alors bénis ma sœur ce matin, bénis mon frère. Bénis-nous par un mot qui émane directement de ton trône de grâce et qui change notre façon de faire, qui change notre façon d'être et qui nous amène tous et chacun à être un peu plus près de la stature parfaite de Christ. Alors Seigneur, merci de prendre soin de nous, merci de nous instruire. Et merci de nous bénir. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, depuis dimanche, on a entamé une thématique sur l'amour, suite à tous les événements qui sont survenus à travers les dernières semaines, événements troublants sur lesquels j'ai pu partager. Un peu dimanche, on vous rappelle que la prédication est disponible, elle est importante pour chacun d'entre nous parce qu'il y a des choses qui doivent changer et ça doit commencer à changer par l'Église, au sein de l'Église, à travers l'Église. L'Église a son rôle à jouer dans tout cela. Donc, on vous invite vraiment à écouter la prédication de dimanche et puis à être béni par ce que Dieu nous a donné. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 12, le dernier verset, comme quoi il allait montrer une voie par excellence à tous ces chrétiens de Corinthe qui servaient, qui manifestaient des dons, qui aspiraient à des dons spirituels, mais il leur disait que la voie par excellence serait la voie de l'amour. Et depuis maintenant 4 jours aujourd'hui, nous méditons sur les caractéristiques de l'amour telles que décrites dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. Et aujourd'hui, on en est rendu au verset 6. Donc, je vais lire pour vous à partir du verset 4 dans 1 Corinthiens. Et je vais lire jusqu'au début du verset 8, les premiers mots. Et on va s'arrêter là. Et par la suite, je reprendrai le verset 6 comme étant la base pour notre réflexion aujourd'hui. Alors, 1 Corinthiens 13, le verset 4 nous dit: l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Je reprends pour vous le verset 6. Il ne se réjouit point, donc on parle de l'amour, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je répète encore une fois, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors simplement deux points aujourd'hui, deux thématiques. Demain, j'expliquerai un peu pourquoi j'ai séparé tel qu'on l'a fait durant ces 5 jours. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une thématique qui est abordée par chacun des versets qui ont été exprimés. Donc aujourd'hui, on nous dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Se réjouir, c'est le terme kairo. C-H-A-I-R-O, je répète, Cairo, C-H-A-I-R-O, qui veut dire être bien ou avoir le sentiment de bien-être. Donc, il est en train de dire ici que l'amour ne peut pas avoir un sentiment de bien-être face ou en présence de l'injustice. Dans d'autres traductions, au lieu de dire « ne se réjouis pas », ils vont y aller avec un synonyme mais contraire, on va dire, ou par un antonyme, au lieu de se réjouir, ils vont y aller avec « s'attriste ». Donc, l'amour ne s'attriste pas, ou l'amour s'attriste plutôt de l'injustice. Et injustice, c'est le terme « adikia », « a-d-i-k-i-a », « a-d-i-k-i-a ». Et c'est quand même deux termes, que ce soit le terme « kairo » ou le terme « adikia », deux termes qu'on retrouve pas énormément, mais quand même assez fréquemment dans le Nouveau Testament. « Kairo » apparaît 74 fois, comparativement à d'autres termes comme hier, qui apparaissait 300 et quelques fois. Et « adikia » apparaît quand même, pour l'injustice, 25 fois. Donc « kairo », qui veut dire le « être dans un bien-être », être dans un état de calme, être dans un sentiment de bien-être, alors que adikia veut dire qui n'est pas accepté devant Dieu, ou qui n'est pas selon les règles, qui n'est pas selon la loi. Donc ici, on est en train de nous dire que l'amour ne peut pas apprécier ce qui viole les lois, que l'amour va être mal en présence de ce qui serait de la fraude par rapport aux lois, que l'amour ne peut pas saluer la malhonnêteté et que l'amour désapprouve la tricherie. Donc, dans la manifestation de l'amour que nous sommes appelés à avoir ou à offrir à notre prochain, à nos proches ou même à nos ennemis, notre amour ne devrait pas être capable de violer les lois ou ne devrait pas se réjouir de ce qu'on puisse devant nous violer les lois, agir avec fraude, saluer, on ne devrait pas être capable d'acquiescer ou de saluer ou d'accepter la malhonnêteté et on devrait être à même de désapprouver, de prendre une position contre la tricherie. Et voilà pourquoi dimanche dernier, j'ai senti qu'il était important pour moi en tant que pasteur d'aborder la question du racisme et dire l'Église doit prendre une position. L'Église doit faire partie de la solution. Et l'Église se doit de dire que ce qui se passe actuellement et de ce qui perdure depuis si longtemps se doit d'arrêter. Donc, il est important que nous, en tant que chrétiens, on ait aussi ces valeurs qui nous amènent à ne pas accepter, qui nous amènent à nous opposer, pas simplement dire « je suis pas content avec une chose », mais vraiment dire « vous n'avez pas mon appui, vous avez ma désapprobation et je m'engage contre les choses qui sont propres à l'injustice ». Alors, trois points importants que je veux sortir ce matin du fait que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice ou que l'amour s'attriste de l'injustice. Premier point, on parle de quelqu'un qui n'est pas bien face à ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Donc, un sentiment de malaise. Malheureusement, dans notre société, et malheureusement parce que nous sommes des humains faillibles et ayant des manquements, parfois, plus on fait face, plus on assiste à l'injustice, on dirait qu'on en devient un peu comme anesthésié. On devient groggy face à cela et les sentiments répulsifs que ça pouvait susciter au tout départ, on dirait que plus on est exposé à la chose, moins ça nous dérange. C'est un peu comme la violence qu'on verrait à la télévision. Il y a une cinquantaine d'années, on voyait peu de meurtres à la télé, au niveau des films et tout ça. On voyait quelqu'un qui tirait, mais on ne voyait pas les dommages physiques que ça infligeait à la personne. On voyait tout au plus une petite tache rouge qui apparaissait sur le comédien qui s'était fait tirer, lui tombait et c'était fini. Mais on n'allait pas dans le graphique même des scènes de violence. Alors que plus le cinéma a avancé, plus on a aussi commencé à montrer les choses en détail, voire même des détails qui sont tout à fait répulsant. Mais malgré tout, plus on a vu ces films-là, plus les choses nous deviennent insignifiantes. Et par rapport à l'injustice qui nous entoure régulièrement, on a aussi cette même attitude. On a tellement été bombardé par des images ou par des choses qu'à un moment donné, on devient, comme je disais tout à l'heure, anesthésié et les choses ne nous dérangent plus. Alors celui qui aime devrait être dérangé par l'injustice dont son prochain est victime. Il ne devrait pas être bien, il ne devrait pas être tranquille face à l'injustice. Celui qui veut manifester l'amour de Dieu, c'est aussi quelqu'un, en deuxième point, qui ne peut endosser les plans qui contournent la volonté de Dieu. Il ne peut endosser, il ne peut approuver, il ne peut donner son aval au plan qui contourne la volonté de Dieu. J'irais même un peu plus loin. Il devrait donner sa désapprobation claire, nette et précise. Voilà pourquoi il y a des sujets dans lesquels l'Église a été, et je parle de l'Église avec un grand E, a été amenée à se positionner. On parle notamment sur la question de l'avortement. Un chrétien croit effectivement qu'un fœtus conçu dans le ventre de sa maman et déjà avant la naissance et bien avant la date limite qui est accordée par la loi pour faire un arrêt de grossesse est déjà un être humain, est déjà un être devant Dieu. Et dans la vision chrétienne qui est la nôtre, et l'Église s'est manifestée ainsi, ben l'avortement était aussi un meurtre ou était un meurtre. Donc l'Église s'est positionnée. Au niveau du racisme, au niveau de la xénophobie, au niveau du mauvais traitement par rapport à la couleur, par rapport à l'ethnicité, l'Église, dans bien des endroits, s'est manifestée comme étant contre la chose. On sait que il y a des gens qui ont utilisé la Bible pour justifier leur position contre la mixité et contre l'accession de toutes les ethnies à un même plan d'égalité. Ils ont essayé de justifier ça bibliquement, mais comme je le disais dimanche, c'est une manœuvre, une malversation totale de ce que la Bible nous enseigne. Paul va dire clairement, voilà, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni étrangers. Nous ne sommes plus venant d'un endroit ou d'un autre endroit. Nous sommes tous soit enfants de Dieu ou condamnés et perdus pour l'éternité. Donc, l'Église se doit d'endosser des plans qui sont approuvés de la part de Dieu. L'Église se doit de réprimer ou de protester, d'être en opposition claire et définie par rapport à tout ce qui contournerait la volonté de Dieu. Et ça arrive souvent dans des sujets éthiques. Enfin, troisième point concernant l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, celui qui aime dans les principes bibliques devrait être indisposé, devrait être mal à l'aise avec la simple idée pour lui-même d'enfreindre la volonté de Dieu. Ça ne devrait pas nous laisser en plan, ça ne devrait pas nous laisser las ou indolents par rapport à l'idée de contrevenir à la volonté de Dieu. L'idée de contrevenir à la volonté de Dieu devrait susciter en moi une sensation forte, une émotion forte qui dit je suis pas capable, j'ai pas envie, ça me dégoûte, ça me rend mal à l'aise. Simplement l'idée de concevoir que peut-être je pourrais enfreindre les lois de Dieu, ça devrait nous rendre mal à l'aise. En tout cas, c'est ce que le terme kairos voudrait dire. Le terme kairos veut dire qu'on n'apprécie pas et qu'on en est même mal. Je suis mal, j'ai un mal-être, j'ai un malaise face à désobéir à Dieu. Donc, lorsque j'aime, je dois être mal à l'aise de prendre cet amour et de l'utiliser de façon inconvenante et inconvenable. Le verset 6 se termine avec la deuxième phrase qui est « L'amour se réjouit de la vérité ». Donc, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Par contre, elle se réjouit ou il se réjouit de la vérité. Et ici, « se réjouir », c'est le terme, et on a toujours le terme « kairo », mais avec un préfixe au début, « sig kairo ». Donc, S-Y-G, kairo, C-H-A-I-R-O, en un seul mot, S-Y-G, je répète, S-Y-G, C-H-A-I-R-O, donc sig kairo. Et le terme vérité, c'est un terme qu'on a déjà utilisé à quelques reprises durant nos études, aletheia, A-L-E-T-H-E-I-A, je répète, A-L-E-T-H-E-I-A. Donc, aletheia, vérité, est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament, alors que sig kairo est utilisé simplement 7 fois. J'aimerais qu'on étudie le terme sig kairo en le divisant entre le préfixe et le suffixe, donc entre la première partie et la deuxième partie. La première particule du terme sig kairo vient de si, S-Y, qui veut dire avec, qui veut dire uni ou qui veut dire lié à quelque chose. Quand vous avez un mot qui commence par si, synonyme, ça veut dire deux choses qui sont ressemblent, deux choses qui sont unies l'une à l'autre. Et sig kairo, ça veut dire quelque chose qui est uni à un sentiment de bien-être. Donc, celui qui aime va s'unir à quoi? À la vérité. S'unir à tout ce qui est vrai, s'unir, unir sa joie à ce qui excelle, féliciter ce qui respecte la pensée de Dieu. Donc, contrairement tout à l'heure à désapprouver, donc là, c'est on applaudit, on félicite ce qui respecte la pensée de Dieu et approuver ce que Dieu approuve. Aletheia, qui vient du terme alet, donc vrai, véridique, et alet, si vous aviez un mot qui lui ressemble dans le langage d'aujourd'hui, ça serait léthargie. Léthargie vient de alet, et léthargie, en fait, veut dire qui n'est pas vraiment lui-même. Quand quelqu'un tombe en léthargie, ça veut dire qu'il tombe dans un état où il est moins fort, moins dynamique, moins vivace. Et là, on dit, il est en léthargie, donc il n'est pas vraiment dans son état normal. Son état normal serait d'être un peu plus vivace, d'être un peu plus vivant, d'être un peu plus... qui bouge un peu plus, qui a un peu plus de force et d'énergie. Et là, lorsqu'on parle donc de léthargie, on dit « son état normal, ce n'est pas celui que vous voyez maintenant ». Donc, être dans un état normal devant Dieu. L'amour qui se réjouit de la vérité, quatre points importants ici. Un, celui qui a cet amour connaît, discerne et s'unit à ce que Dieu approuve. Donc, celui qui aime selon les principes de Dieu, va être poussé à connaître la volonté de Dieu, à discerner cette volonté et à s'unir à la volonté de Dieu. Connaître, discerner, s'unir avec ce que Dieu approuve. Donc, dans la manifestation de mon amour, dans ce que je vais aimer, dans ce, et c'est eux pas les personnes, mais c'est eux dans les choses que je vais aimer, les choses que je vais aimer vont devoir être approuvées de Dieu. Les comportements que je vais aimer vont devoir être approuvés de Dieu. Les façons de faire que je vais aimer vont devoir être recevoir l'approbation du Seigneur. Plus loin encore que simplement connaître, discerner et s'unir, je dirais que celui qui aime, selon le plan de Dieu, doit approuver ce que Dieu approuve. Donc, j'en viens à aimer ce que Dieu aime. Et foncièrement, ça serait tout simplement appliquer pleinement ce verset qui dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, Christ aime, à travers lui, j'aime. Christ désapprouve, à travers lui, je devrais aussi désapprouvée. Ma pensée ne devrait pas être autre que la pensée de Dieu. Mes sentiments par rapport à une chose ne devraient pas être autres que les sentiments qui habitent et animent aussi Dieu. De surcroît, celui qui connaît, discerne, s'unit et approuve ce que Dieu approuve, je dirais que celui qui aime dans les principes bibliques devrait être aussi quelqu'un qui encourage et qui propage ceux qui respectent la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui encourage, qui donne son appui, qui donne son aval, qui donne un coup de main par rapport à ce que Dieu approuve, mais de surcroît à cela, qui propage aussi. Malheureusement, en tant que chrétien, on vit parfois dans une espèce de bulle qui nous fait croire que nous n'avons pas une responsabilité sociale, que nous n'avons pas une responsabilité communautaire, alors que l'Église devrait être à la base celle qui prend soin des orphelins, celle qui prend soin des veuves, celle qui prend soin de l'étranger, celle qui prend soin de l'indigent. Aujourd'hui, parce que l'État a pris cette part de responsabilité, que dans la plupart des pays, c'est maintenant l'État, ou dans la plupart des pays occidentaux, c'est l'État qui s'occupe des veuves, des orphelins, de l'indigent et des étrangers. On dirait que l'Église est devenue tout simplement un organisme d'ordre spirituel qui ne voit strictement qu'à l'aspect spirituel. Entendez-moi, l'aspect spirituel est très important. L'aspect spirituel est primordial, même puisque nous amenons les hommes à être en communion avec Dieu, à avoir une relation rétablie avec Dieu. Mais de surcroît à cela, le commandement de prendre soin de la veuve et de l'étranger et de l'orphelin et de l'indigent se trouve dans l'Ancien Testament, se trouve dans le Nouveau Testament. Alors l'Église se doit de jouer malgré tout son rôle. On s'en est lavé les mains, on s'est déchargé de cette responsabilité parce que l'État s'est mis à le faire, mais c'est pas parce que l'État s'est mis à le faire que l'Église n'a pas à le faire encore, que l'Église n'a plus à le faire. Donc, je crois qu'il est important que nous puissions encourager ce genre d'action, mais que notre amour aussi fasse en sorte qu'on propage ce message, qu'on puisse convaincre nos frères, nos sœurs, qu'on puisse convaincre nos congrégations selon lesquelles, effectivement, nous devons et nous sommes appelés, effectivement, à prendre une place dans la vie sociale et la vie communautaire de notre société. Enfin, l'Église ou le corps de Christ qui aime et l'individu qui aime devrait rester à être vrai devant Dieu. Il devrait chercher à être et à rester vrai devant Dieu. Si j'aime la vérité, si j'aime ce qui est véridique, si j'aime les choses qui plaisent à Dieu, alors je devrais rester aussi authentique. Et authentique ne veut pas dire, mais j'ai un mauvais caractère, fait que je le garde parce que sinon je vais être menteur. Non, non, un mauvais caractère, ça se travaille. De mauvaises attitudes, ça se travaille. La Bible nous appelle à être doux, à être rempli de compassion, rempli de bonté. La Bible nous appelle à être bon, débonnaire, rempli de grâce pour tout le monde. Donc, le mauvais caractère, être honnête et être sincère avec nous-mêmes ou propre à l'image que nous avons de nous-mêmes, ça ne veut pas dire que je garde mon mauvais caractère. Si je suis chrétien, je dois travailler et je dois demander à Dieu de me travailler, mais je dois faire aussi l'effort de voir à ce que mon mauvais caractère change. Donc, rester vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire être honnête devant Dieu, ne pas faire « je bats des mains, je lève les mains en l'air, je crie « Amen » plus fort que tout le monde, je prophétise plus fort que tout le monde, mais dans le fin fond, je déteste mon frère, je n'aime pas ma sœur. » Alors, dans ma façon d'être, dans les fibres même de ce que je suis, je devrais être absent ou je devrais ne pas avoir de fausseté en moi. Ça veut dire, si je ne suis pas doux, ben je deviens doux, point à la ligne. Si je ne suis pas doux, ben je fais pas semblant. avec des paroles mielleuses comme quoi je suis devenu doux. Je change mon cœur, je change mon attitude. Et je fais pas semblant de mener une vie sanctifiée. Je lève pas mes mains devant tout le monde pour montrer que je suis plus saint que les autres. Je ne tape pas plus fort des mains pour montrer que je suis un peu plus spirituel. Je ne prophétise pas plus fort que tout le monde ou à tous les dimanches simplement pour montrer que Dieu m'utilise. Et dans le fin fond, je sais que je déteste mon frère. Je sais que je déteste ma sœur. Et comme on l'a vu hier, je sais que je vis une vie où je me sens tout le temps accusé de tout le monde et je me crois tout le temps accusé de tout le monde et je soupçonne le mal chez celui-ci et je soupçonne le mal chez celle-là. Donc, mon attitude se doit de changer. La fibre même de quoi je suis constitué se doit de changer afin que je sois réel, véridique, véritable, vrai devant Dieu. Je ne lui rends pas un culte oral, un culte verbal qui soit autre que ce que l'intérieur de mon cœur change. Ça veut dire que je vais à changer l'intérieur pour que mon intérieur cadre avec les paroles que je proclame. Alors, la vie chrétienne est un appel à la transformation. La vie de celui qui aime selon les plans de Dieu et selon la pensée même de Dieu nous appelle à avoir des transformations et des changements, nous appelle à vivre une vie où nous, chaque jour, Dieu peut nous modeler un peu différent, peut nous façonner un peu différemment afin d'être un peu plus près de ce que la Bible appelle être à la stature parfaite de Christ. Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui? Celui qui aime n'est pas bien face à ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Celui qui aime ne peut pas endosser les plans qui contournent la volonté de Dieu. Celui qui aime est indisposé face à la pensée même que lui pourrait mal faire. De surcroît à cela, celui qui aime sait connaître, reconnaître, discerner et s'unir avec ce que Dieu approuve. Celui qui aime approuve ce que Dieu approuve. Celui qui aime encourage, propage ce qui respecte la volonté de Dieu. Et celui qui aime cherche à être vrai et à rester vrai devant Dieu. Alors, c'était cela qu'on avait pour ce matin. On va prier. Après ça, je vais saluer quelques personnes qui se sont peut-être jointes à nous depuis le début de notre session ce matin. Alors, Seigneur, merci. Merci de ce rappel à l'ordre afin de vivre des vies qui sont en connexion avec ta volonté et avec ta pensée. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ma sœur, que tu bénisses mon frère ce matin et que tu nous amènes tous et chacun, Seigneur, à saisir davantage ce que tu désires faire avec nous et que nous puissions nous mobiliser par rapport à ce que toi tu approuves et que nous puissions nous mobiliser aussi à l'encontre de ce que toi aussi, Seigneur, tu désapprouves. Que nous puissions, Seigneur, prendre notre place, jouer le rôle auquel, Seigneur, tu nous as appelés et maintenir, Seigneur, bien haut l'étendard de ta parole, l'étendard de ta vérité, tout en manifestant grâce, tout en manifestant compassion et amour envers notre prochain et envers même notre ennemi. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Merci de nous avoir parlé. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, permettez-moi de saluer quelques personnes si j'arrive à voir. Alors, je crois... j'essaie de voir qui était la dernière personne que j'ai saluée tout à l'heure. Ramon, je crois que je t'ai salué. Andrés, je crois que je t'ai salué. Bonjour à la sœur Samek. Bonjour à la sœur Rosie de l'Alsace en France. Bonjour à Eric, Dieu te bénisse. Et bonjour à la sœur Susanna, je ne sais pas si je vous avais salué tout à l'heure, mais je vous salue. Puis ici, qui s'est joint à nous? Il y a Vanessa. Salut Vanessa, bonjour à Jeff. Il y a Annie, bonjour Annie, Dieu te bénisse. Et puis, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai comme nom pour ce matin, mais j'étais encore content de vous avoir aujourd'hui. Donc, notre prochain rendez-vous demain matin à 8h30, toujours pour notre temps de bénédiction matinale. On termine cette section sur le chemin par excellence qu'est l'amour. Et puis demain soir, on aura notre rendez-vous pour la prière et l'intercession à partir de 19h, donc de 19h à 20h. On vous rappelle aussi, les jeunes, que vous avez un rendez-vous à partir de 20h demain soir sur Zoom. Vous avez votre culte habituel qui se fait par la plateforme Zoom. Donc les jeunes qui voudraient y participer, qui n'ont pas la connexion, on vous invite simplement à écrire au groupe jeunesse si vous allez sur la page Facebook de l'Église et que vous regardez les annonces pour cette semaine. Vous allez vous rendre compte qu'il y a l'adresse électronique à utiliser pour contacter les jeunes et pouvoir vous connecter vous aussi avec eux via Zoom demain soir. Donc demain matin, 8h30, demain soir, 19h pour nous tous, la prière et intercession, 20h pour les jeunes sur la plateforme Zoom, et par la suite, bien sûr, on se réunit dimanche matin, 10h, heure de Montréal, pour notre culte d'adoration tous ensemble. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, soyez de bons représentants de l'amour de Dieu, dispensez-le autour de vous, propagez-le autour de vous, marquez la différence dans la vie d'une personne au moins aujourd'hui, souriez aux gens qui vous croisent, et quand l'occasion est là, et même quand l'occasion n'est pas là, parlez de Jésus, parlez de ce bon sauveur qui est le vôtre et le nôtre. Que Dieu vous bénisse, et on se revoit donc demain. Bye bye tout le monde!